Bienvenue sur Une semaine, un livre. Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture commune ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et c'est un nouvel épisode dédié au club de lecture Pharmakeia. Cet épisode correspond au mois de mars 2023 et pour m'accompagner, il y a des femmes et des voix auxquelles vous êtes maintenant habituées. Je suis accompagnée de Daphné. Bonjour Daphné.
Bonjour Elodie.
Il y a aussi Pauline. Bonjour Pauline.
Salut.
Et il y a Rose. Bonjour Rose.
Salut tout le monde.
Bienvenue les filles, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel enregistrement. On va débriefer du mois de notre lecture du mois de mars 2023. Et pour le mois de mars, les propositions étaient toutes des livres écrits par des femmes parlant de sujets de société ou de parcours de femmes. Et nous avons choisi de lire un roman qui est désormais célèbre. En tout cas, moi, je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et sur les blogs. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani. Ça a été publié en 2017 chez Grasset et c'est le premier roman de cette autrice qui est aussi cinéaste, scénariste, comédienne et donc romancière. Son premier roman, ben, il a connu un sacré succès et on l'a beaucoup vu sur les réseaux grâce à ça, mais il a aussi reçu des prix littéraires. Il a reçu le meilleur roman Globe Cristal de 2018, le prix littéraire Trophée des femmes de l'économie de 2017 et le prix relais 2017 des voyageurs lecteurs. Et depuis ce premier roman, elle a écrit d'autres œuvres qui ont aussi connu beaucoup de succès, donc Les Victorieuses en 2019 et Le Cerf-Volant en 2021. Et en ce qui concerne La Tresse, il y a également une adaptation cinématographique qui est prévue pour novembre 2023. Donc ça, c'était un peu pour la partie présentation du livre, de l'autrice et de son contexte. Mais le livre, de quoi il parle? Eh bien, il parle de trois femmes à trois endroits différents du monde qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent à s'émanciper, à se trouver une place dans un monde où la femme, elle, n'a pas sa place. Et le lecteur va alterner au fil des chapitres ces trois récits de femmes. Je vais m'arrêter là pour le résumé parce que je trouve que vu le format du livre qu'il est quand même pas très épais et vu qu'on va aborder les thèmes, on va pouvoir parler un peu plus de quoi ça parle. Je trouvais que c'était suffisant pour introduire le contenu. Et comme d'habitude, le tout premier point que nous allons aborder, c'est l'état d'esprit dans lequel nous avons commencé cette lecture. Donc, quel était votre état d'esprit?
Alors, avant de commencer cette lecture, moi, j'en avais déjà entendu parler parce que mon père l'avait lu. Et en fait, il l'avait lu en 2019 à l'aéroport à Paris. Et il faut savoir que mon papa n'est pas trop lecteur et qu'il a dévoré le livre en 2 heures. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit « Ok, donc il y avoir un truc » parce que ça l'avait impressionné, il avait adoré l'histoire et tout. Donc, je me suis dit « Ouais, il y a quand même un truc ». Donc, je l'avais acheté à ce moment-là. Et du coup, j'attendais avec impatience de pouvoir le lire. Et il était dans ma pile à lire depuis que je l'ai acheté en 2019. Donc, j'étais assez excitée à l'idée de lire le livre et de voir ce qu'il en était après en avoir entendu tellement de bonnes choses.
C'est chouette que tu aies pu avoir un avis de quelqu'un de proche. Parce que moi, j'avoue, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, sur les blogs, mais personne m'en a parlé genre de vive voix. Et j'aime bien ça, moi, quand on m'en parle de vive voix ou qu'on m'envoie vraiment un message à moi en mode « Ouais, ça devrait être trop bien ». Et pour lui, c'était pas le cas.
Ma petite sœur a lu la BD aussi.
Ah oui, ok.
Elle avait trouvé ça intéressant, mais elle voudrait le lire aussi en version livre de poche pour voir aussi s'il y a des différences.
Je vois.
Pour moi, c'est un peu particulier, non. C'est une relecture, puisque je l'avais déjà lu en 2019 ou début 2020, je ne sais plus. Et c'est un livre qui m'avait laissé de très, très bons souvenirs. Alors, quand j'ai su qu'on avait sélectionné ce livre-là pour notre lecture commune, ça ne m'a absolument pas dérangé d'en faire une relecture, d'autant qu'il est, comme tu l'as dit, assez court. Donc cette fois-ci, j'avais pas un œil neuf sur ma lecture, mais ça m'a absolument pas empêché de l'apprécier à nouveau, presque comme la première fois. Et ça m'a pas empêché de verser mes petites larmes à nouveau.
Oh. Mais c'est vrai qu'il est hyper rapide à lire.
Ouais, je crois que je l'ai lu en 2, 3 heures.
Et enfin, pour conclure, Rose, dans quel état d'esprit étais-tu?
Alors moi, j'avais, comme tout le monde, beaucoup vu passer le roman à la fois sur les réseaux et aussi en librairie. Il était beaucoup mis en avant à une période. Mais alors moi, c'est pas un genre que je lis beaucoup, le contemporain de ce type-là. Donc ça m'intéressait pas. Enfin, je me disais, il a du succès, il doit être bien, mais moi, ça m'intéresse pas, donc je le lirai pas. Et puis voilà, avec Pharmacia, je lis des livres que je n'avais pas prévu de lire. Et ça, c'est très cool d'ailleurs. J'aime beaucoup ce concept de sortir de ma zone de confort.
C'est ça, il y a beaucoup de diversité, on sort un peu de notre zone en parcourant différents genres et styles qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai.
Ouais. Et puis là, celui-là, il avait l'avantage d'être court, donc c'est pas comme quand on va dans un genre qu'on n'a pas l'habitude et il y a 800 pages. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai pris la décision de l'écouter en audio et je regrette pas du tout mon choix. C'était une bonne écoute avec des belles voix de femmes, de 3 femmes différentes. Et ouais, ça, c'était très sympa.
Ok, alors on passe au thème suivant, si vous êtes d'accord, qui est donc sur le style et les choix de narration, puisqu'effectivement, dans ce roman, en tout cas en version écrite, il n'y a pas vraiment de dialogue. Il y a des petits moments où on a peut-être 3 lignes qui correspondent à des paroles dites à l'oral, mais c'est toujours un seul personnage qui parle. Et on n'a pas de gros échanges, on n'a pas vraiment de dialogue. On a souvent la description de ce qui s'est dit entre 2 personnages, mais en utilisant le futur, en mode elle l'aura appris plus tard quand le médecin lui aura dit je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et moi j'ai trouvé ce choix assez intéressant. Donc je voulais qu'on en parle et puis du coup parler aussi de façon générale du style, du rythme et du choix de narration, puisque donc à chaque chapitre on a un personnage différent. Mais si vous êtes d'accord, je veux bien commencer. Parce que justement, cette histoire de dialogue, je ne l'ai pas compris dès le début. Genre, c'est quasiment à la fin, quand j'ai commencé à faire les liens dans ma tête par rapport à l'intrigue, que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas vu de dialogue. Et je trouve que c'est assez fort de réussir à entrer dans un récit, à entrer dans des personnages avec tous les enjeux qu'il y a dans leur vie, sans dialogue. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on ressent la tension, qu'on comprend la tension ou les scénarios que le personnage se fait dans sa tête par rapport à ce qui se passe dans sa vie, par rapport au contexte, par rapport au récit, à la narration, grâce au dialogue. Parce que, bah, comme des humains, parfois on reste bloqué sur certaines paroles, je suppose. Et là, de réussir à entrer dans les différents enjeux des personnages, sans dialogue, j'ai trouvé que bah, c'était la preuve d'une bonne maîtrise du style de l'autrice. Donc voilà, et après ouais, le choix narratif de passer d'un point de vue à un autre, j'ai bien aimé, parce que du coup ça donne une lecture qui s'essouffle jamais vraiment. Puisque si on veut connaître ce qui se passe dans la vie d'un des personnages, on est obligé de passer par les autres, et donc d'avancer, 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 donc ça s'essouffle jamais, donc ça j'ai bien aimé.
Ouais, moi, comme toi, les dialogues, je m'en suis rendu compte tout à la fin. Je me suis dit, mais je viens de passer, je sais pas combien d'heures d'écoute, il n'y a pas eu un seul dialogue, en fait. Je l'ai tilté à la fin aussi, et j'ai trouvé ça très, très fort de la part de l'autrice. Et je pense que en plus, en audio, comme c'est lu par quelqu'un d'autre, etc., alors c'était encore moins visible qu'il n'y avait pas de dialogue, parce que notamment tout ce qui est discours indirect. Donc c'est la manière dont c'était retransmise les dialogues par le narrateur, enfin par la narratrice. C'était joué. Du coup, ça passait vraiment comme un dialogue, mais sans en être un. Et c'était vraiment très 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 bien fait en audio. Je m'en suis pas du tout rendu compte. Pour moi, sur la construction, j'ai bien aimé. Mais alors par contre, il y a une des voix des 3 femmes, l'italienne, que j'ai un peu moins aimée. J'ai un peu moins aimé l'accent qu'elle utilisait, etc. Et du coup, les passages où c'était elle, ce personnage-là, j'ai du coup moins accroché, j'avais hâte qu'on passe à l'autre partie. Mais c'est vrai que du coup, le fait de savoir qu'après, je vais avoir les 2 autres personnages qui arrivent et voilà, d'avoir envie de connaître la suite, ça rend très dynamique et ça permet de ne pas rester coincé, en fait,
Ouais.
de toujours avancer dans l'histoire.
Oui, au final, ces passages où c'était un peu moins agréable pour toi, tu savais que ça passait vite
Ouais.
et que tu pouvais enchaîner, ouais. D'accord.
Ouais, moi j'ai eu. Alors, j'ai même pas remarqué qu'il n'y avait pas de dialogue. C'est là, en vous écoutant, que je me rends compte que il n'y en avait pas. Donc, c'est vraiment bien construit parce qu'on comprend vraiment tout ce qui se passe. On entre aussi dans les pensées, dans les supposés dialogues que les personnages ont avec d'autres personnages, sans pour autant se rendre compte qu'il n'y a pas de dialogue, effectivement. Et moi, l'alternance avec les personnages, c'est un truc que j'aime pas beaucoup dans mes lectures.
Ah ouais.
En fait, ça me perturbe énormément de lire un chapitre sur quelqu'un. Tu vois, je me dis, ouais, ça va continuer comme ça sur le livre. Et puis finalement, après, on se retrouve avec un autre personnage. Ça me perturbe un petit peu. Mais là, après avoir eu les trois premiers chapitres avec la présentation des personnages, finalement, ça s'est bien goupillé, en fait. Et ça s'est bien lié. Les histoires étaient bien liées. Donc, du coup, ça m'a moins dérangé que dans certains autres bouquins, en fait.
Oui, parce qu'en plus, je crois que c'est toujours dans le même ordre.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises.
Il y a juste vers la fin où il y a l'Indienne qui. On a un chapitre en moins, enfin un chapitre en moins sur elle, on va dire. Mais ouais, c'est toujours dans le même ordre. Donc c'est assez. C'est bien, bien construit.
C'est assez logique. Après, bah, pour revenir sur les dialogues, en fait, si, enfin, je sais pas s'il y en a, il y a des paroles, mais il y a toujours. Vous savez, il y a des passages, bon, peut-être que Rose, tu l'as moins ressenti parce que je ne sais pas comment c'est retranscrit à l'audio, mais il y a des petits passages parfois de deux ou trois lignes où là, c'est vraiment des paroles. Mais en fait, il n'y a personne en face qui lui répond à ce moment-là. Peu importe d'ailleurs qui dit ça. Je pense par exemple à l'Indienne quand elle parle à sa fille et qu'elle dit réveille-toi ou lève-toi ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça reste des paroles. Mais comme il n'y a personne qui répond, c'est pas vraiment un dialogue, parce que du coup, ça devient juste des paroles. Enfin, je sais pas, c'est très détourné, tu vois. Je repense à des passages très particuliers avec l'avocate Sarah et son médecin, où la façon dont ça a été fait, reporter les dialogues, c'est juste fou. C'est perturbant, c'est pas commun, on le trouve pas partout. Et voilà.
C'est aussi un livre qui traite des femmes, et je pense que ça fait aussi sens au fait qu'on n'écoute pas la voix des femmes.
Ah ouais.
Notamment, bah, tu parles de la scène avec le médecin. En fait, on est tellement habitué en tant que femme, quelle que soit notre ethnie, quel que soit notre âge, de tout taire parce que bah, de toute façon, on ne nous écoutera pas et que voilà. Que je pense que ça pourrait être aussi un des sens donnés par l'autrice à ce type de dialogue-là.
C'est vrai.
Et pour le coup, enfin, moi, j'ai trouvé que ça manquait pas du tout non plus les dialogues. Ça m'avait pas frappé non plus de prime abord. Ça aurait pu vite être un écueil, en fait, si la plume, elle n'était pas aussi bien maîtrisée et si le style, il n'était pas. Moi, je l'ai trouvé lyrique et très agréable à lire, très très fluide. Et si le style n'avait pas été aussi bien maîtrisé, ça aurait pu rendre le livre complètement naze, quoi. Et finalement, non, c'est très bien maîtrisé et ça donne une particularité supplémentaire au livre qui est très intéressante.
Et est-ce que, tu vois, nous on parlait aussi du changement de point de vue, justement, à chaque chapitre. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ça?
Moi, je suis assez habituée aux bouquins où du coup, tu as un changement de voix à chaque chapitre. C'est très répandu, notamment dans les bouquins de fantasy. Donc, en soi, ça m'a pas du tout dérangée. J'aime bien. Ça m'embête pas plus que ça. Et en effet, ça donne un rythme au livre.
Et vous savez, je me dis, là, on se dit que ce choix. Au niveau de la narration, des dialogues et des chapitres, ça se goupille bien. Mais je me dis que si le roman avait été plus long, je pense que l'impression aurait été différente. C'est peut-être aussi le format court qui fait qu'on l'a vécu aussi bien.
Ouais, je suis d'accord.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose?
Sur l'écriture, sur le style, bah on est voilà vraiment sur un style assez contemporain. C'est des livres, le genre de format de livre qui sort beaucoup ces dernières années. Pour autant, bah je trouve qu'elle se démarque quand même vachement bien.
C'est vrai. Alors, je vous propose de passer au thème suivant, qui est un peu central au final. Vu le livre, ce sont les personnages, vu que ce sont le récit de trois femmes différentes. Alors, est-ce que vous avez aimé les personnages ou pas? Rose, tu nous as déjà teasé que toi, l'italienne, c'est peut-être celle que tu as le moins aimée, mais un peu à cause de la voix. Après, il y a des voix auxquelles on n'accroche pas et on n'y peut rien. C'est pas forcément une mauvaise lecture, mais est-ce qu'il y a autre chose?
Par rapport à l'italienne, moi, c'était pas uniquement la voix, c'était à la fois la voix, mais aussi son histoire.
Ah oui.
Au personnage italien, je le trouvais un petit peu moins forte comme histoire que l'histoire des deux autres personnes, donc la canadienne et l'indienne. Donc j'ai un petit peu moins accroché à l'italienne, mais pour autant, c'était pas désagréable à écouter. Je l'ai pas, elle m'était pas antipathique non plus. Et par contre, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage indien. L'indienne, qui est vraiment, je trouvais, très très attachante, et elle, pour le coup, qui a une histoire vraiment qui se démarque complètement des deux autres. Il se démarque surtout de notre mode de vie à nous, je pense. C'est ça qui la rend si, si attachante quelque part.
J'avoue, j'ai un écueil sur le nom des personnages. Je sais que la Canadienne, c'est Sarah.
Sarah, c'est la Canadienne qui est avocate, du coup. Giulia, c'est la Sicilienne, l'Italienne. Et Smita, c'est l'Indienne.
Ah oui, voilà, j'avais que le prénom de sa fille en tête, Lalita. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est mon coup de cœur personnage, c'est la petite fille. Alors qu'elle y est pas vraiment, ça n'a aucun sens. Mais ce que sa mère est capable de faire pour elle et tout, moi, oui, j'avais envie de la protéger aussi, cette petite Lalita, de lui donner le monde entier dans une fleur, mais le monde n'est pas fait comme ça.
Tu vois, tu dis que ça n'a pas de sens, mais pour moi, ça en a quand même beaucoup du sens parce que c'est la future génération de femmes.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Et sa mère se démène pour qu'elle puisse avoir du choix, un destin différent du sien. Oui. Et je pense comme toi, Rose, Giulia, l'italienne. En fait, c'est pas que je l'aimais pas non plus. T'as raison, c'est pas vraiment ça. Je dirais presque. Alors, c'est horrible de dire ça, hein, mais c'est pas grave. Ce sont que des personnages fictifs. Mais je dirais presque que son histoire est moins intense que ce que peuvent vivre Smita et Sarah.
Elle touche moins le fondement de l'être. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça, c'est ça.
Elle fait aussi le lien entre les deux autres histoires.
Exactement.
Je pense qu'elle a une position plutôt délicate.
Ouais.
Et quand tu fais le lien avec l'âge du personnage aussi, ça dénote pas tant, finalement.
Je sais plus quel âge elle a.
C'est la plus jeune des trois.
Elle a une vingtaine d'années.
Ah ouais, j'avais oublié ça, moi. Je la voyais plus âgée, effectivement. Donc c'est un personnage très mature.
Mais je trouve quand même que c'est dommage parce que vu ce qu'elle vit par rapport à son père, etc., ça aurait pu faire écho beaucoup à beaucoup de monde et ça n'a pas super bien marché, je trouve. Alors qu'il y avait elle avait un bon potentiel. C'est dommage.
C'est vrai que, comme tu le disais, Pauline, comme ça fait le lien au final.
Ouais, elle aurait pu être un peu plus travailler un peu plus profondément. Après, moi, du souvenir que j'en avais, et puis bon, ça l'a un peu confirmé à la relecture, il y a quand même, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Julia dans l'histoire. Je crois qu'on commence, je sais plus avec quel personnage on commence dans le livre.
Il me semble qu'on commence par Smita.
Ouais, on commence par Smita. Et à chaque fois, elle se retrouve au milieu, oui. Je crois que c'est Smita, Julia, Sarah. Ouais, moi j'ai préféré l'histoire de Smita. Julia, ouais, j'ai trouvé au final, ça manquait quelque part d'intensité. Moi, il me manquait un petit quelque chose parce que je voyais Smita qui souffrait, qui se sacrifiait et qui se démenait pour sa fille. Sarah qui, bon, même si ses enfants sont moins présents, on la voit essayer de se démener pour sa carrière, pour sa propre vie au final. Donc c'est assez intense. Et Julia, son père, ok, il a un accident et il finit à l'hôpital. Ça arrive très tôt dans le roman, donc je considère que c'est pas du spoil. Mais ce qui peut arriver après, c'est un peu moins intense. Il y a son amourette. Je sais pas trop quoi en penser. Je comprends pourquoi c'est là. J'ai bien aimé ces passages. Mais d'un autre côté, je sais pas, ouais. Franchement, ce personnage, pour moi, son histoire n'était pas aussi intense que les autres. Du coup, j'étais un cran en dessous aussi pour ce personnage, alors que les deux autres, j'ai beaucoup accroché, et surtout Smita.
Mais il faut aussi dire que Julia, on a un petit peu son histoire, elle a un peu un vrai dénouement, parce qu'on sait à peu près où son histoire la mène.
C'est vrai.
Les deux autres, Smita, on ne sait pas vraiment si elle va atteindre sa destination, et Sarah, on ne sait pas vraiment non plus comment ça va se passer la suite en fait. Alors que Julia, on sait que finalement, ce qu'elle a entrepris a donné un résultat qui fait que elle a réussi à faire le trait d'union entre les deux autres personnages.
Oui, et puis surtout, une fois que le trait d'union est fait, ben, de son côté à elle, ça roule ensuite, c'est fait.
Mais c'est là que tu vois que les personnages auxquels t'as le moins accroché ou les points négatifs, t'y accordes quand même beaucoup plus de temps qu'aux points positifs parce que finalement, on n'a pas énormément parlé de Smita que vous, vous avez aimé. Et moi, je pense que le personnage auquel je me le suis le plus identifié, c'est Sarah, pour le coup. Parce qu'elle, voilà, c'est un mode de vie bah, que je connais, c'est un mode de vie. C'est le mode de vie qui se rapproche le plus du mien, je pense. Et finalement, sa lutte. Et le fait qu'elle va se recentrer sur ce qui compte vraiment, c'est quelque chose qui a fait beaucoup écho en moi. Même si j'avoue que l'histoire de Smita m'a énormément touchée.
Oui, moi Sarah, c'est vrai que j'ai bien aimé le passage où justement elle explique quelle est la place de la femme malade dans la société. Ça ne fait pas rêver. C'est le quotidien de beaucoup de monde. Et effectivement, comme elle est au Canada, c'est un monde occidental qui est très proche du nôtre. Et c'est particulièrement touchant ce passage. Et je crois que c'est un peu à partir de là où j'ai inconsciemment ralenti mon rythme de lecture pour aussi digérer tout ce qui se passait.
Par contre, moi, pour Sarah, même si j'ai bien aimé son histoire, et effectivement, elle a aussi fait écho, d'une certaine manière, à ma vie ou à la vie de mes proches, j'ai trouvé que là, sur la narration, des fois, il y avait, pour moi, ce qui était un écueil, parce que souvent, elle parlait au futur, et en fait, elle nous dévoilait ce qui allait se passer, la narratrice, et je trouvais que ça gâchait un petit peu l'effet de surprise, quelque part. J'ai trouvé ça étrange parce qu'on l'avait pas sur les deux autres personnages. Voilà, elle nous dire et bientôt elle apprendrait que.
Tu sais à quoi ça me fait penser? Au fait que quand t'es malade, t'as du mal à te projeter. Et en fait, tu veux vivre ta vie peut-être en accéléré de peur de manquer de temps.
C'était ce que j'allais dire. En même temps, c'est un personnage aussi, c'est un personnage très carriériste. Et à la base, c'est quelqu'un qui se projette beaucoup dans le futur, dans ses projets, même quand elle raconte sa vie, le début avant de savoir qu'elle est malade, elle se projette beaucoup dans le futur, au final, dans sa carrière. Et là, elle est privée, en fait, de la possibilité de se projeter. Du coup, de choisir justement ce type de formulation au futur, moi, je trouvais que ça faisait particulièrement écho au personnage, quoi.
Ok, moi ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Pour moi, c'était pas, ça m'a pas trop plu, mais effectivement, je peux comprendre, oui, tout à fait ce que vous dites.
Daphné, on t'a peut-être un petit peu moins entendu sur les personnages. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Je pense que tout a été dit. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Smita et sa fille, parce que je trouve que c'est des conditions de vie qui sont affreuses, et je pense qu'en Occident, on s'en rend pas vraiment compte. Je pense que ça a été bien, bien expliqué, bien raconté dans le livre. Ouais, Julia, encore une fois, c'est pas vraiment, j'ai pas forcément accroché, mais elle a une jolie histoire, même si elle a des malheurs dans son histoire. Hein, on va pas se mentir, elles ont toutes les trois des choses qui leur arrivent qui sont affreuses.
Dans le récit, au final, elles sont toutes les trois avec un gros obstacle quand même à surmonter dans leur vie. Ouais.
C'est ça, mais je trouve que Julia, c'est celle qui a l'histoire la plus lisse, on va dire. Et Sarah, ouais, Sarah, ça a été. C'est un peu comme Smita et le côté où on ne se rend pas compte de ce que c'est que de vivre en Inde quand on est une intouchable. Il y a aussi le côté où quand on n'est pas malade, comme l'est Sarah, on ne s'en rend pas forcément compte, même si on a connu des gens qui l'ont été. Si dans notre entourage, dans nos proches, on a des gens qui ont été malades. On se rend pas vraiment compte de ce que c'est à l'intérieur et ce que ça représente en fait par rapport au travail, à la famille, aux relations qu'on a. Et je trouvais ça très intéressant.
Oui, ouais, Smita, je trouve que en fait c'était particulièrement dur parce que c'est de naissance quoi. C'est juste pour ce qu'elles sont. Elle a rien de différent par rapport à d'autres femmes à part d'être née d'une certaine façon. Et ça c'est un point de vue très fataliste. Et elle a essayé de se sortir de ça et Peut-être que ça a fait plus écho en moi par rapport à un background personnel éventuellement, quoi. En comparant ce qui est comparable, bien sûr. Eh bien, merci pour cet échange sur les personnages. Il est maintenant temps de parler de la conclusion pour savoir est-ce qu'on a aimé le dénouement, mais toujours sans dévoiler la fin, et surtout de l'appréciation globale. Est-ce qu'on a aimé l'histoire? Est-ce que c'est un livre qu'on aurait envie de recommander? Le dénouement, donc, je l'ai un peu senti venir, mais au final pas si tôt, et comme le livre est tout petit, je pense que c'est une fin qu'on peut anticiper assez facilement. Et ça m'a fait pleurer, clairement. J'ai pleuré. Je sais plus trop quel a été l'élément le plus déclencheur, mais j'ai pleuré. Alors, je sais pas ce qui se passe pour que ce début d'année, je pleure à tous les livres que je lis presque, mais j'ai pleuré. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et comme il se lit hyper vite, que le style est bien, que on ne se rend pas compte tout de suite qu'il n'y a pas de dialogue, il manque rien en fait pour moi au récit. On a pu parler des personnages et peut-être de différence entre les personnages, mais ça crée pas de manque au récit. Résultat, moi, c'est un livre que je recommande, mais que je recommande à 100%. À 100%. Du coup, je comprends, Pauline, pourquoi tu n'as pas hésité à le relire. Parce que c'est trop bien. Voilà.
Bah ouais. D'ailleurs, là, il est même pas à la maison, le livre, je l'ai prêté à une copine. Du coup, ouais, non, c'est vraiment un livre que je recommande, d'autant qu'il est assez court. Mais c'est pas parce qu'il est court qu'il est pas puissant. Pour le coup, je trouve qu'en deux, je crois qu'il fait 200 pages ou quelque chose comme ça. On aborde quand même une quantité assez impressionnante de sujets durs. Enfin, on a la pauvreté, on a la condition féminine dans des pays en voie de développement, dans les pays développés aussi, bien sûr, l'éducation, la religion, les échecs, l'épanouissement, la recherche de l'épanouissement, tout ça. Et beaucoup d'injustices aussi. Et finalement, sans spoiler, pour revenir sur la fin, moi je trouve que le plus beau, c'est que elles resteront toujours liées, ces trois femmes, sans le savoir. Et finalement, c'est plus qu'un livre féministe, c'est vraiment un livre humain. Se rendre compte que chaque humain a sa propre valeur, au même titre que son voisin, enfin, je trouve que c'est un des messages les plus forts du livre.
Pareil, je le recommanderais et je pense d'ailleurs que je vais le prêter à une amie, que je suis pas sûre qu'elle l'ait lu. Ouais, parce que il est très fort et je me souviens pas si j'ai pleuré ou pas, mais ça m'étonnerait pas. Les fins qui sont pas totalement des fins sont quand même très émouvantes et puis comme le dit Pauline, on sait qu'elles sont toujours liées ces trois femmes et que c'est pas un tout petit lien, c'est un truc très important pour les trois, c'est quelque chose qui rentre dans leur histoire et qui rentre dans leur vie et qui fait partie vraiment de ce qui fait le fort du livre. Et bon, moi je vais pas mentir, j'ai lu la fin avant de lire le début.
Sacrilège,
C'est une très très mauvaise habitude que j'ai, mais je fais ça avec tous les livres que je lis parce que en fait j'ai besoin de savoir si la fin vaut le coup. Et quand j'ai lu la fin du livre, je me suis dit, alors ça ne m'apprend rien, mais ça vaut le coup. Donc du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. Et maintenant que j'ai lu le livre et que je connais toute l'histoire, ouais, je recommande à 100% et c'est vraiment un livre très fort.
À ton tour, Rose.
Alors, pour ma part, j'avais très très vite deviné l'intrigue, on va dire, globale. Mais pour autant, ça m'a pas du tout dérangé dans ma lecture d'avoir tout compris quasiment dès le départ. Par contre, sur le dénouement, j'ai été un petit peu frustrée avec l'histoire de Smita, l'Indienne, dont on sait pas. C'est pas la suite. Moi, je veux savoir. Alors qu'en fait, ce que j'ai trouvé étrange, c'est qu'elle boucle l'histoire de Julia et en partie celle de Sarah, même si c'est pas vraiment bouclé à 100%. Et j'ai trouvé ça étrange de pas nous fermer toutes les histoires J'ai peut-être même trouvé que c'était une facilité scénaristique dans le cas de l'Indienne, de pas aller au bout finalement. Pour moi, c'était vraiment ouais, une facilité scénaristique. Elle n'avait pas envie de s'engager sur la suite. Et c'est comme ça que moi je l'ai ressenti en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas ou. Par contre, j'ai beaucoup aimé du coup le dénouement que j'avais pressenti dès le départ. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça très 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 beau. Et bon, Pauline en a très bien parlé, donc je ne reviendrai pas. J'adhère totalement à ce que tu en as dit, Pauline. Voilà. Et oui, je recommanderais ce livre aussi. Je pourrais le recommander effectivement même à des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire du contemporain et qui auraient envie d'une histoire qui change un petit peu de, voilà, de leurs habitudes.
Parce qu'en plus, c'est tellement court que c'est pas le genre de livre où c'est un pavé et puis si la personne n'aime pas, tu regrettes un peu, t'as l'impression qu'elle a perdu son temps. Là, c'est tellement court, ça va vite, hein.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que Le cerf-volant, c'était une suite, mais il n'est pas marqué comme suite dans Livre Addict. Alors du coup, je ne sais pas. Ça donne envie de le lire pour voir.
J'ai pas non plus la certitude que ce soit une suite, tu vois. Dans mes recherches, j'ai pas fait ressortir de lien officiel entre les trois. Et effectivement, comme j'ai pas lu les autres, ouais, je saurais pas dire.
Je suis en train de regarder, apparemment ça se passerait en Inde, donc peut-être qu'il y a un lien avec les Smita, mais là dans le résumé en tout cas il n'y a aucun indice qui de ce que je viens de lire, c'est aussi l'histoire de trois femmes et c'est aussi l'histoire voilà, des histoires d'éducation féminine, tout ça en Inde, donc je pense qu'il y a des parallèles qui ont été faits, mais apparemment, y a pas, c'est pas une vraie suite, quoi. Enfin, c'est pas une suite.
En fait, je pense que ça peut se lire indépendamment. Toutefois, je viens de tomber sur un commentaire hyper intéressant. Un vrai bonheur de retrouver un des personnages de la tresse.
Ok.
Ah.
Voilà. Donc oui, ça peut donner envie de le lire, du coup.
Bah ouais.
Surtout par rapport à ce qu'on s'est dit sur le dénouement. Eh bien, nous sommes déjà à la fin de cet épisode. Et avant de se dire au revoir, dernier point avec nos lectures en cours, quels sont les livres qui vous accompagnent en ce moment?
Ben moi, je suis en train de lire un livre de Marc Lévy qui s'appelle C'est arrivé la nuit et c'est le tome 1 d'une trilogie, la trilogie des neuf. Voilà, et ça change un petit peu de ce qu'il fait, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, Marc Lévy. Et là, je prends beaucoup de plaisir à retrouver sa plume et ça, l'univers qu'il propose, là, très très intéressant.
Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Daphné, qu'est-ce que tu lis en ce moment?
En ce moment, je lis Le chat du Dalai Lama de David Michie. C'est un livre sur la philosophie bouddhiste, mais vu du point de vue du chat du Dalai Lama. Et en fait, c'est le chat qui raconte l'histoire. Et c'est très intéressant, c'est plein d'enseignements si on souhaite en prendre des enseignements, sinon c'est une très jolie fiction.
D'accord.
Mais non, c'est très intéressant, vraiment. En plus, c'est très peu courant d'avoir le point de vue d'un animal, en fait.
Ouais.
Surtout dans ce type de livre, un peu développement personnel, un peu réflexion sur la religion. C'est très rare qu'on fasse parler des animaux. Donc voilà, je trouve ça très intéressant.
Ouais, parce que c'est le type de lecture où il y a besoin d'un peu d'identification, parce qu'en développement personnel. Ouais, enfin, c'est un peu nécessaire pour, je sais pas, créer des déclics, des choses comme ça. Et là, à travers un animal, ça doit pas être non plus évident.
Alors en fait, on aurait presque l'impression que ce n'est pas un chat ou que c'est un esprit humain réincarné dans un chat.
En fait, c'est un chat de dessin animé.
C'est pas loin, oui.
C'est peut-être aussi juste un prétexte, justement, pour avoir un regard un peu différent et. Ça choque moins, ouais. Et toi, Pauline, que lis-tu en ce moment?
J'ai commencé avant-hier, les 10 000 portes de January de Alix Harrow, si je ne me trompe pas. Je vais pas spoil, hein. Je sais même, enfin, en vrai, j'ai lu deux chapitres. On sait pas trop. Enfin, c'est le, on sait pas trop où ça va nous mener. C'est l'histoire d'une jeune fille. Enfin, on la suit petite et puis là, elle commence à grandir. Et c'est très très bien écrit. Enfin, en tout cas, c'est très très bien traduit. Beaucoup de poésie dans les quelques pages que j'ai lues. Et je le lis en lecture commune avec Alice, une autre membre du Pharmakeia.
D'accord. Eh bien, moi, je lis Sur la Lune de Marie Robinette Coval. C'est le troisième tome de Vers les étoiles. Et comment vous dire que je passe en mode fangirl, c'est pas possible. Je n'ai plus aucune objectivité concernant les œuvres de Marie Robinette Coval. Et d'ailleurs, elle a écrit d'autres œuvres entre-temps qui ne font pas partie de la trilogie, qui ne sont pas encore traduites en français. Et je suis à deux doigts de me dire que je vais faire mes premières lectures VO parce qu'en fait, je veux les lire. Voilà. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à vous pour votre participation pour un nouvel épisode du Club de lecture. Et on se donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain épisode.
Merci.
Merci à toi.
Merci, merci à tout le monde.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcast et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.